L'écrivain Philippe Besson vient de publier son 24e roman. 24! C'est quand même pas rien, hein? Alors, ça s'appelle « Une pension en Italie » qui est publié aux éditions Julliard. Après avoir exploré des sujets sociaux percutants comme le féminicide ou le suicide des jeunes, l'auteur renoue ici avec une veine plus personnelle. Philippe Besson, merci beaucoup d'être là.
Merci pour votre invitation, Denis.
Alors,
merci beaucoup.
Je dis personnel parce que c'est quand même intéressant. Ce livre nous transporte en Toscane, l'été 1964, 3 ans avant votre naissance, en passant.
Oui, c'est ça.
Ici, il n'y a pas de discrétion sur les dates d'anniversaire. On y suit donc la famille Virsac, dont le père Paul est professeur d'italien à Nice. Alors, j'arrête là. C'est quoi l'inspiration de ce livre?
C'est d'abord la volonté d'explorer les secrets de famille, parce que beaucoup de familles ont des secrets, et il y a parfois des familles dans lesquelles il manque des pages dans les albums. Vous voyez, il y a des photos qui ont disparu, il y a des histoires qui circulent, il y a des rumeurs qui se répandent, il y a des légendes qu'on a écrites après coup, il y a des vérités officielles qui se sont imposées, et ça m'a toujours intéressé, ça, cette idée d'essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup on ne nous dit pas toute la vérité, pourquoi il faut aller poser des questions, et quand on pose ces questions, il n'y a pas de réponse. Pourquoi on doit affronter des silences qui ressemblent à des dénis ou à de la honte, à de l'embarras en tout cas. Et donc, il faut aller essayer de chercher au-delà des apparences. C'est déjà un thème que j'avais exploré dans d'autres de mes livres. J'aime bien cette idée d'aller au-delà des apparences et d'essayer de contrarier le silence.
Alors, ce livre, donc, on l'a dit, s'articule autour d'un secret de famille qui est gardé pendant 50 ans. Comment avez-vous travaillé cette rétention de l'information? Puis qui donne au livre, et là, je vais dire, un sillage presque policier. J'avais l'impression parfois d'avoir un petit peu d'intrigue policière là-dedans.
Oui, parce que j'ai voulu construire le livre comme une enquête, parce que elle est menée par un narrateur qui est écrivain. On se demande bien pourquoi.
Ouais.
et cet écrivain, donc, très longtemps après que les faits se sont produits, décide d'essayer de comprendre justement ce qui s'est passé, parce qu'il est l'héritier de cette histoire. Il est en fait le petit-fils de Paul Virsac, dont on fait la connaissance dès le début du livre.
Ouais.
Et il essaie de comprendre pourquoi on ne lui a pas dit la vérité. Et donc, il va interroger les témoins. Et quand il interroge des gens, encore une fois, on lui répond à côté, on esquive. Et il va finalement se rendre sur place pour essayer de comprendre si la géographie lui donne des réponses et s'il y a des témoins de cette époque. Donc, j'ai voulu le mener presque comme une enquête policière, cette quête des origines, cette quête de vérité. Voilà pourquoi il y a peut-être effectivement une tension qui surgit à la lecture. Oui.
Qui fait qu'on en est incapable de mettre le livre de côté. Alors, moi, je le dis, je l'ai lu en une journée.
Très bien, je suis très content, ça me fait plaisir.
Des fois, je me dis, j'ai pas fait durer le plaisir. Alors, parlons de la rencontre entre Paul, justement, ce personnage, et un jeune cuisinier de la pension qui s'appelle Sandro. On parle d'un coup de foudre inattendu entre deux êtres que tout semble opposé. Ça représente quoi, cette rencontre-là, pour Paul?
Paul, c'est tout d'un coup. Alors, Paul, il faut dire qu'effectivement, c'est un père de famille.
Oui.
Il a une quarantaine d'années. Il est professeur d'italien, vous le disiez, à Nice. Il part en vacances avec sa femme et ses deux filles, Suzanne et Colette, qui sont respectivement âgées de 18 et 10 ans, dans une pension, donc dans un petit village entre Florence et Sienne. Tout doit bien se passer. Hein. Ils doivent visiter des églises, des villages, etc. Bon. Et puis là, dans cette pension, il y a un cuisinier. Et le regard de Paul va être attiré par le regard du cuisinier. Et tout ça va ramener Paul d'abord à sa vérité intime, une vérité qu'il a réprimée, c'est-à-dire des inclinations qu'il a depuis le plus jeune âge, mais qu'il a tenues dans le secret, dans le silence et dans une forme de refoulement, c'est-à-dire il a bien compris quand il avait 18 ou 19 ans où le portait son désir, mais il s'est dit tout ça va finir par se régler, passer, je vais l'oublier, je vais le contrarier, je vais l'écraser. Il a épousé Gabi et je pense qu'il l'a fait avec sincérité. Il a sans doute été touché par cette femme qui a du caractère, il avait envie de fonder une famille et puis tout d'un coup, en voyant arriver Sandro dans cette pension, tout ressurgit, c'est-à-dire tout ce qu'il a refoulé pendant des années. Et là, ce désir qu'il a pour l'homme en face de lui, c'est la révélation de son identité secrète. Et tout d'un coup, il est confronté à une réalité toute simple qui est-ce que je décide d'assumer pleinement ce que je suis? Est-ce que je décide de m'affranchir du poids des conventions, du poids des traditions et du mensonge dans lequel je suis enfermé depuis des années? Parce que ce jeune chef de cuisine, tout d'un coup, me renvoie à ce que je suis intimement.
Et donc, ce roman, avant de plonger, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette rencontre, moi, personnellement, parce que, oui, il y avait toute cette sexualité, cette sensualité, sans qu'elle soit dite. On la ressentait. Et oui. Ça, j'ai beaucoup aimé.
Mais d'abord, elle passe par les regards. Et moi, je trouve que c'est important, cette idée-là, que, parce que souvent, nos vies, ça se joue sur des détails. Et là, en l'occurrence, c'est Sandro qui porte son regard sur Paul, qui le scrute comme s'il comprenait qui était Paul, comme s'il avait perçu ce qu'il cache. Et Paul, il va regarder Sandro 3 secondes de trop. Mm-hmm. Il aurait fallu qu'il baisse le regard, il laisse le regard lever, et tout d'un coup, Paul, il apporte une réponse à la question qu'est en train de se poser Sandro. Et après, effectivement, la sensualité va se jouer, et elle se joue dans une chambre de pension, à l'abri des regards, derrière des persiennes fermées. Dehors, il y a la pesanteur zénitale du soleil, il y a l'Italie qui brûle, qui brille, il y a le soleil de l'été 64, et eux, ils sont enfermés dans cette chambre, avec un Christ en croix au-dessus du lit, et le carrelage frais de la chambre, et leur histoire va se jouer là, et les corps vont se rencontrer, mais au-delà des corps qui se rencontrent, il y a une vérité qui se dévoile, qui se révèle. C'est pas juste une histoire de sexe, même si c'est aussi une histoire de sexe, bien sûr, mais c'est une histoire d'amour qui est en train de naître à ce moment-là, oui.
Tout à fait. Le roman dépeint aussi une France et une Italie, j'aurais dire, de 1964, en régie par des valeurs puritaines. En quoi la figure de Paul fait-elle écho au thème de l'homophobie, de l'impossibilité d'être soi-même que vous explorez souvent dans vos romans?
D'abord, souvent quand on repense aux années 60, rétrospectivement, on les voit, nous autres qui ne les avons pas forcément connues, comme des années d'insouciance, de liberté, d'émancipation. On se dit, c'est les années des yéyés, des chanteurs, c'est les années de la croissance économique. En Italie, c'est les années du miracle économique, de Dino Rizzi, de Vittorio De Sica, de Fellini, de Sophia Loren. Et en même temps, pour autant, ce sont des années qui sont très marquées par le poids des traditions, des conventions, des normes, de la religion, en l'occurrence, en Italie, avec les Christs justement dans les chambres et les missels dans les commodes. Et c'est un moment de bascule, c'est-à-dire qu'on va aller vers l'émancipation, mais on n'y est pas encore. Et donc, ce qui se passe effectivement là, c'est ce moment de bascule. Tout d'un coup, on va quitter cet endroit très cloisonné, très refermé sur lui-même, à un moment d'affranchissement. Et Paul, il ouvre des portes. Mais c'est vrai que l'homophobie, elle est très claire et très présente dans ces années-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut dire que l'homosexualité, elle est criminalisée. En France, par exemple, elle va être pénalisée jusqu'en 1982. Ah, elle est un délit jusqu'en 1982. C'est la gauche, en 1982, qui va abolir le délit d'homosexualité. Il faut aussi se dire que l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'en 1990, considérera l'homosexualité comme une maladie mentale. Une maladie mentale. Donc voilà où on vit. Ça veut dire que Paul, il ne peut pas assumer. C'est-à-dire que si vous décidez d'assumer votre homosexualité en 64, vous risquez d'être jeté en prison, mais surtout vous risquez l'opprobre, la honte, le déclassement social. Donc voilà aussi pourquoi tous ces hommes se taisaient et pourquoi en face, il y avait cette espèce de violence qui n'avait même pas besoin de s'exprimer d'une certaine manière, parce que c'était une violence légale. Ils savaient qu'ils avaient le pouvoir d'obliger les autres à se taire.
Tout à fait. On va parler de vous. Oui. Dans de précédents récits, Arrête avec tes mensonges, vous évoquiez la clandestinité de vos propres amours dans les années 80.
Oui.
Alors, quel lien vous faites entre le silence imposé à Paul et celui ou votre propre expérience de dissimulation?
Alors, c'est un silence qu'a ses voisins quand même. C'est un silence presque jumeau. C'est-à-dire que même dans les années 80, on était encore obligé de se taire et de faire attention. Parce que moi, j'ai grandi dans un petit village en Charente. C'est un département dans le sud-ouest de la France. Très peu peuplé, très paysan, très campagnard, où j'ai été très heureux, c'est un endroit merveilleux. Mais c'est vrai que vous ne pouviez pas assumer votre homosexualité publiquement. Si vous l'assumiez, vous risquiez évidemment les injures, les insultes. Moi, par exemple, les mots « sale pédé », je les ai entendus pour la première fois dans la cour de collège. Les mots m'étaient adressés à moi et ont suivi 18 mois de harcèlement, 18 mois de mise à l'écart, 18 mois de violence physique et psychologique, et donc il fallait se taire, parce que voilà, et je pouvais pas non plus aller le dire à mes parents. Est-ce que j'allais aller voir mes parents en disant on me harcèle à l'école en me traitant de sale pédé? Non, parce que je savais la question qui allait juste derrière et j'étais pas capable d'y répondre. Alors néanmoins, moi j'ai pas été catastrophé du tout, au contraire, par la découverte de mon homosexualité. Quand j'ai compris que j'étais homosexuel, j'étais plutôt très content parce que c'était enfin une forme de singularité, de différence, parce que moi, j'étais un enfant très discipliné, très sérieux, très bien peigné. Voilà, et tout d'un coup, je disais, c'est formidable, une singularité, quelque chose qui va me distinguer des autres. Je n'appartiens pas à la norme, c'est merveilleux. Bon. Mais j'ai compris tout de suite que le monde entier serait en face, allait être hostile. Et donc, ça m'a forgé le goût du combat. Je me suis dit, ils ont l'air d'être nombreux en face à ne pas m'aimer, donc je vais essayer de les combattre. Donc,
par l'écriture, quoi.
Oui, et l'écriture m'a aidé à ça, bien sûr. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier que juste après arrive l'épidémie de sida.
Ouais.
Et qu'il faut comprendre que pour notre génération, ça a été quelque chose de terrible. D'abord, les gens ont regardé cette maladie comme une malédiction que les homosexuels avaient bien méritée. Mmh. Il y avait quelque chose, c'est bien fait pour eux. Et puis surtout, ça nous a privés de nos amis, de nos amants, de nos amoureux. Moi, beaucoup de mes amis ont eu 20 ans, 22 ans et n'en ont jamais eu 25. Mmh. Ils ont péri. Moi, quand je regarde les photos à la fin des années 80 et puis je regarde la même photo à la fin des années 90, nous étions 10 et à la fin, nous n'étions plus que 2 vivants.
Tout à fait.
Et donc, on a vécu ça, cette décimation. Donc, c'était compliqué aussi d'assumer son homosexualité dans cette époque-là.
Le temps file, mais j'aimerais faire aller au moment présent. Ouais. On vit vraiment une montée des intolérances avec les montées d'extrême droite, que ce soit Trump ou le RN en France. Est-ce que c'est encore pertinent de parler de qui nous sommes et de l'écrire?
C'est plus pertinent que jamais. Ces combats, il faut les mener parce qu'on voit qu'en face, les populismes gagnent. On voit qu'en face, la haine de tout ce qui n'est pas le mâle blanc, hétéro, dominant, ça devient compliqué. On est d'accord que c'est difficile. D'ailleurs, au fond, on voit bien que aujourd'hui, la façon dont on traite les homosexuels, dont on traite les transsexuels, etc., c'est assez violent. Mais d'ailleurs, ça n'est qu'une réplique de la façon aussi dont on traite les femmes. C'est toujours comme les combats sont toujours voisins, même si les femmes, elles, ne sont pas minoritaires. Elles sont majoritaires. Mais on voit bien que la remise en cause de l'avortement, le triomphe des masculinistes, tout ça entraîne une sorte de déclassement de ce que nous sommes dans notre différence, notre vibration. Ouais. Et donc, il faut que nous autres, les artistes, les cinéastes, les musiciens, les écrivains, on mène ce combat avec nos armes à nous. C'est des pauvres armes. Hein. On n'a que des mots ou des chansons ou des films, mais on les a. Alors, il faut se battre.
Je termine avec ça. Vous êtes quand même heureux dans la vie. Je sais que vous êtes amoureux.
Oui, je suis très amoureux. Ça fait 15 ans que je vis avec le même homme et je suis très, très heureux. Donc, moi, ça va bien. Je ne me plains de rien, mais je vois bien qu'autour de moi...
Parlez publiquement, puis je pense que ça donne un exemple. Peut-être.
Ah oui, j'en parle sans aucune difficulté. Au contraire, moi, cette question m'a été posée dès que j'ai commencé à écrire. J'ai répondu à la première minute et depuis, je n'ai jamais cessé de répondre à la question tant quand on me la pose.
Bon, ben merci beaucoup. Merci infiniment, Philippe Besson. Une passion en Italie, c'est un roman bouleversant sur la quête des origines et la puissance du désir censuré. C'est disponible en librairie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.